Nous entendons en apparence deux paroles contradictoires. La parole de Dieu dans le livre du Deutéronome qui nous dit « Gardez le commandement, gardez tous les commandements du Seigneur, ils sont sagesse et intelligence, et ainsi nous pouvons être un peuple sage et intelligent devant tous les autres peuples. Ce qui est vrai pour Israël l'est pour tout croyant qui suit la volonté de Dieu, qui suit la révélation. » Donc garder les commandements, on pourrait dire garder la tradition. Et pourtant, dans l'Évangile, les pharisiens et les scribes dirent au Christ, exprimèrent leur stupéfaction, leur étonnement, voire même leur mécontentement, en disant au Christ, à propos de ses disciples, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Finalement, on entend le Deutéronome nous dire « Suivez la tradition et les commandements » et finalement, il semblerait que Jésus ne suit pas les commandements. Finalement, faut-il ou pas suivre la tradition ? On ne sait plus, dirait-on, à quelle tradition se vouer. La question vraiment qui est posée, c'est sur notre compréhension de la tradition. Faut-il ou pas rejeter la tradition ? Y a-t-il une bonne et juste compréhension de la tradition ? Y a-t-il des écueils ? Y a-t-il aussi des impasses ? Tout le débat en interne dans l'Église, c'est le fameux débat progressiste traditionnel, tradit. C'est le débat de la transmission dans la société. Mais à un degré supérieur, ça touche à notre foi. Alors peut-être se rappeler ce qu'est tout d'abord la tradition pour l'Église. Nous entendons le Seigneur nous dire par plusieurs fois, j'ai été assez marqué par cela, il le dit dans l'épître de saint Jacques, mais il le dit aussi dans le verset alléluiatique qui reprend l'épître de saint Jacques. Et la liturgie de l'Église a voulu le reprendre pour manifester l'importance. C'est « Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité ». Pour un chrétien catholique, qu'est-ce que la parole de Dieu ? La parole de Dieu, pour un chrétien, et particulièrement un catholique qui connaît le Concile Vatican II, la constitution dogmatique sur la parole de Dieu, Dei Verbum. Pour un chrétien, la parole de Dieu, c'est l'écriture et la tradition. Elles sont comme deux grâces sorties de l'unique source qui est le Christ, nous dit le Concile. Ainsi, l'Esprit-Saint a inspiré les prophètes, a inspiré l'écriture. Ainsi, l'Esprit-Saint assiste, c'est un autre terme théologique, assiste l'Église en déployant cette écriture dans l'histoire, dans l'agir de l'Église, dans la conceptualisation des formules dogmatiques, et nous appelons ça la tradition. La tradition est autant parole de Dieu que l'écriture, parce que toutes deux découlent de la source qui est le Christ. Ainsi, le Concile Vatican II met en avant la tradition, comme on pourrait dire le Deutéronome, surtout gardez tout. Et la tradition, effectivement, a donné les plus belles choses de l'histoire de l'Église. Les pères de l'Église, les docteurs, les saints, les conciles, nos rites, tout ce qui nous permet d'être en présence du Dieu vivant, de bien le connaître. Ainsi, l'apôtre Philippe rencontre l'eunuque qui lit l'Écriture. Faute de tradition, il ne sait pas lire l'Écriture. Et l'apôtre lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Non. L'apôtre faire œuvre de tradition lui expliquait. Il est à nouveau à ce moment-là engendré dans la parole, l'écriture et la tradition conjointe. Et il demandera à l'eunuque le baptême, parce qu'il fait l'expérience du Christ. Donc la tradition telle que l'entend l'Église véhicule la présence de Dieu vivante. Elle nous engendre dans toute cette richesse. Et pour l'apôtre Pierre, garder le dépôt de la foi, c'est garder à la fois l'écriture, toute cette révélation, mais tout le témoignage des témoins oculaires qui ont vu le Christ, sa mort et sa résurrection, leur manière de le prier, la fameuse fraction du pain qui est le début de l'Eucharistie. Ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, aux prières communes, et ils mettaient tout en commun, nous dit les actes des apôtres. C'est cette fameuse tradition qui se déploie, le fameux dépôt des apôtres, le dépôt de la foi. Donc un chrétien, forcément, ne va pas rejeter la tradition. Et pourtant, on pourrait entendre la parole des pharisiens, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Et nous savons que pour un juif, il y a un vrai rapport filial avec les aînés qui transmettent la tradition. Ainsi, on parle de la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans l'Écriture, on se met souvent sur un auteur, sous le patronyme d'un auteur spirituel, comme on l'a fait pendant des siècles dans l'histoire du christianisme, en se mettant sous tel ou tel patronage de saint. Et il y avait une dévotion filiale. Évidemment, la crise de la tradition, de la transmission, a entraîné la perte du sens de la sagesse et du sens des aînés. Alors effectivement, ça nous parle moins aujourd'hui. Et pourtant, c'est très important. Quelqu'un qui veut faire œuvre de tradition doit, à mon avis, mettre trois choses dans sa vie en place. Pour vivre véritablement une tradition qui engendre, qui est féconde. Tout d'abord, il doit prier. Celui qui prie vit de l'Esprit-Saint qui a inspiré les Écritures, vit de l'Esprit-Saint qui a assisté la tradition, vit de cet Esprit créateur qui est fécondant. La prière rend fécond. Mais ça ne suffit pas. Celui qui veut vivre de la tradition doit aussi accueillir intégralement la tradition de l'Église. Il y a parfois des écueils idéologiques qui, du coup, on accueille la tradition de l'Église à telle ou telle date, avant ou après Vatican II, selon telle ou telle période, et puis après, il y a une forme de mur idéologique qui fait que le temps s'est arrêté, suspendu, pour l'éternité, on en reste là. Ça s'appelle de l'idéologie. Et c'est très intéressant de voir ce phénomène engendre quoi ? La stérilisation. Pas de vocation, pas de conversion. Parce que l'Esprit-Saint est toujours en mouvement, frères et sœurs, dans l'histoire. Il se déploie, il est toujours fécondant. Et la tradition, c'est l'actualisation de cette éternelle parole de Dieu pour tous les temps, de manière nouvelle. Le même Dieu dit à chaque fois, à chaque époque, d'une manière nouvelle. Donc attention au fixisme. Et là, on pourrait effectivement dire le tradit, au sens dur du terme, n'a pas compris la tradition qui est toujours mouvement. L'accueil de la tradition nous permet sans arrêt de nous actualiser, de nous permet de comprendre le mouvement de l'esprit. Nous ne sommes pas d'un pape, nous sommes de tous les papes. Nous ne sommes pas d'un concile, nous sommes de tous les conciles. Il n'y a pas de rupture, il y a continuité permanente parce qu'il y a mouvement permanent de l'Esprit Saint dans l'histoire. Nous sommes de la tradition. Mais ça ne suffit pas, il faut prier l'Esprit Créateur, il faut vivre cette tradition. Mais la troisième chose aussi importante, il faut évangéliser en son temps. Dans notre époque, il faut parler de Dieu. Celui qui parle de Dieu aux autres, sans arrêt, est obligé d'actualiser le message révélé qui lui est donné, ce fameux dépôt de la foi, reçu des apôtres, par les saints, par les témoignages, par les catéchistes, par les parents qui nous ont fait œuvre de transmission de tradition. S'il l'annonce aux autres, il est obligé de l'actualiser dans l'esprit pour le donner d'une manière percutante. Ainsi, il est obligé de dialoguer avec le monde contemporain et y discerner les signes des temps. Celui qui n'évangélise pas, s'enferme dans une tour d'ivoire, il a beau réciter son catéchisme, ça pourrit rapidement. Et il se fige. Sans prière, pas de vitalité. Sans tradition continuée, pas d'actualisation. Sans évangélisation, pas de donation, ça pourrit. Trois critères qui nous permettent de voir si nous vivons vraiment dans la tradition. Et là, nous pouvons entendre à ce moment-là la critique du Seigneur, qui n'est pas finalement contre la tradition, puisqu'il n'a jamais dit que je suis venu enlever tout, il a dit « je suis venu accomplir ». Et pas un iota ne serait enlevé. Il n'est pas contre la tradition, le concile nous le rappelle, c'est lui qui l'a inspiré. Mais il est contre toutes les petites traditionnettes, toutes les petites réductions de la tradition, qui ne sont pas ce grand mouvement de Dieu, de sa parole qui nous engendre. Et quelles sont ces petites réductionnettes, ces petites traditionnettes? Ce sont tout d'abord la confusion, je pense, mais il y en aurait peut-être d'autres à dire, la confusion de la tradition et d'une réduction du christianisme, et c'est une particularité assez française, pas que, mais assez française, la réduction du christianisme à des critères sociologiques. Ce n'est pas la manière dont tu penses, dont tu t'habilles, la manière dont tu achètes ta voiture, la manière dont tu votes en politique qui fait que tu es un bon catho. Ce sont que des critères humains. Et c'est très important. On peut être de la grande tradition et voter autrement, avoir une autre voiture, s'habiller différemment. Si je dis ça, ça pouvait paraître étonnant, mais un catéchumène converti a dit dans ma paroisse, dans cette paroisse, dans notre paroisse, il a dit un jour « Mon père, je veux bien croire en Jésus-Christ, mais je ne veux pas forcément rire de vos mêmes blagues ni m'habiller pareil. La réduction, réduction sociologique, ce n'est pas ça la tradition. C'est la traditionnette. Ça, c'est un aspect d'apparence, mais c'est déjà réel. Et c'est déjà sous, assez répandu, ce qui fait que des fois, le christianisme se véhicule par des clichés. Et on est vite reconnu dans la société par des clichés. Mais ce n'est pas la grande tradition qui engendre. Il s'agit de dépoussiérer cela. C'est très important. Et parfois, les catéchumènes nous rappellent la quintessence de notre foi, qui n'est pas connotée de telle ou telle manière. Et ça nous fait du bien. Ils disent le même Dieu, mais autrement. Et ça nous fait du bien. Allons plus loin. La critique du Seigneur n'est pas qu'une critique formelle. Elle est une critique sur l'intériorité du disciple qui suit la tradition ou pas, le vrai esprit de la tradition. Ainsi, il dit, en citant Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. » Et le Seigneur n'est pas contre le culte, puisqu'il a lui-même dit, « Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et c'est lui qui a inspiré en disant, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, premier commandement. » C'est une œuvre de culte. Et pourtant, il montre que les scribes et les pharisiens s'y attachaient aux anciens dans un esprit filial, se sont trompés sur un point essentiel, au-delà des réductions des traditionnettes. C'est le cœur qui a manqué. Le cœur n'est plus là. Plus tard, Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, rappellera à ses sœurs, « Mes sœurs, quand vous priez le Notre Père et quand vous priez, pensez ce que vous dites. Pensez à la personne à qui vous parlez. Ce n'est pas une formule catéchétique qu'il faut réciter. C'est une rencontre avec le Dieu vivant. Pensez à qui vous parlez. Le risque du formalisme, c'est d'oublier à qui nous parlons. C'est de faire des rites, d'enchaîner des rites, sans savoir que ces rites sont engendrants à la vie, en oubliant le Dieu vivant, en n'y mettant pas son cœur, en ayant une foi traditionnelle de surface. Et l'enjeu toujours est de plonger au cœur. Et comment on fait pour plonger au cœur ? On se livre totalement. On livre tout son être totalement dans cette prière. Dans ce lieu qu'on croit vie pour nous ressourçant, où Dieu nous engendre dans la grande tradition et non les réductions, on se livre totalement, on y met son cœur. Et là, c'est fécondant. Mais voyez-vous, parfois l'information, le surcroît d'information, et notre époque est très adepte de la rapidité, de la saturation de l'information, de forme de tradition superficielle. Et en réalité, on a l'habitude de plus y mettre son cœur. Or, toute l'histoire de l'Église, des saints, nous montre que celui qui veut véritablement faire œuvre de tradition, y mettre son cœur, doit digérer, doit accueillir la parole de Dieu comme une graine et se laisser féconder, la laisser descendre en lui, se laisser imprégner, et ça prend du temps. Mais ce temps donné à l'imprégnation, ce qui est contraire dans la culture de succession dont nous sommes, ce temps d'imprégnation génère la fécondité. L'histoire de l'Europe, disait Benoît XVI au Collège des Bernardins, discours sur la culture, est liée à la destinée du monachisme. Ce sont les moines qui ont transmis la culture, qu'ont-ils fait ? Par leur œuvre de méditation de la parole, dans les écrits, dans la liturgie, dans le grégorien et dans l'art, ils nous ont transmis les pères grecs, les architectures, et ils ont fait que l'Europe est un pilier de tradition. Ces gens-là étaient les grands manducateurs de la parole, les grands digérants. Ils prenaient le temps, mais c'était fécondant. Mets-y ton cœur avec patience, et totalement tu vas être fécond. Mère Teresa disait, « Une parole qui n'est pas une parole de lumière n'éclaire pas la vie, mais la rend plus ténébreuse. » Nous avons entendu le Père qui nous engendre par sa parole. Nous savons que sa parole, c'est l'Écriture et toute cette tradition, ses saints, ses rites. Si nous émettons notre cœur, notre parole, notre agir est lumineux. Et j'ajouterai que la tradition, au-delà du débat interne ecclésial, au débat du progressiste tradit, au-delà du débat extérieur sur la crise de la transmission qui va mener un jour à la crise de la stérilisation, il y a un lien entre frères et sœurs aujourd'hui entre la chute démographique et la chute de la foi. Parce que la foi, c'est une manière de vivre, c'est une tradition vécue, en acte, nous dit la parole. Ne vous contentez pas de connaître, mais agissez, dit Saint-Jacques. Et la manière de vivre, entraîne une manière de comprendre le monde, la famille, etc. Aujourd'hui, il y a moins d'idées. Il y a une stérilisation de la vie intellectuelle, comme il y a une stérilisation de la vie démographique. Parce que fondamentalement, il peut y avoir une stérilisation de la transmission de la tradition, de cette vie surnaturelle qui nous engendre et qui rend fécond tout notre agir. Si nous reprenons ça sérieusement, nous ne serons pas simplement des répétants, et c'est la critique qu'on fait aux traditionnels. Nous serons des créatifs. Celui qui se laisse pénétrer par la tradition est créateur. Celui qui refuse le grand mouvement de la parole de Dieu dans l'écriture et la tradition est voué à la stérilité. Toutes les époques ont eu des grands saints qui étaient des modèles de la tradition, cette actualisation de la parole qui dit le même Dieu, mais autrement. Toutes les époques ont eu des grands artistes, cette actualisation de la parole dans les images qui dit le même Dieu, mais autrement. Parce que tous ont été pétris de la tradition. Quand nous faisons œuvre éducatrice, d'enseignement, de catéchisme, de parents, de professeurs, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire œuvre de tradition, à être créatifs. Mais pas de manière réductive, en nous laissant guider par l'esprit, inspirer, assister, en nous laissant pétrir. Alors à ce moment-là, nous ne sommes pas dans la répétition. Alors à ce moment-là, on y a mis notre cœur. À ce moment-là, le Père nous engendre. Et nous engendrons à notre tour. Amen.